Merci d'écouter RFI, 9h à New York et à Port-au-Prince. Il est 13h en temps universel. Dernière partie de RFI Midi, c'est notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Juste après le journal, nous parlerons avec notre invité de l'insécurité en Haïti, 3 mois exactement après l'arrivée des premiers policiers kényans venus appuyer la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs. Nous reviendrons aussi sur les grands discours d'hier ou attendus à l'Assemblée générale des Nations Unies, celui de Joe Biden, le dernier en tant que président, ou encore celui de Javier Milei notamment. Et puis comme chaque jour, nous rejoindrons nos confrères de La Première, Benoît Ferrand aujourd'hui, pour l'actualité des Outre-mer. En Martinique, on attend une nouvelle réunion sur la crise de la vie chère. Elle est prévue demain.
Oui, ce sera déjà le 4e round de discussion. Et en cas d'accord, le préfet l'a promis, les contrôles sur le terrain seront renforcés. Nous entendrons tout à l'heure Jean-Christophe Bouvier.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal. Avec Mayol de Charon et à la une, Israël qui poursuit ses frappes sur le Liban.
L'armée israélienne a annoncé mener des bombardements de grande envergure dans le sud et la vallée de Beka, deux bastions du Hezbollah. 23 personnes ont été tuées ce mercredi, plus de 500 depuis lundi. Des milliers d'habitants sont déplacés dans ce pays meurtri par de multiples guerres avec Israël. Les bombardements et l'afflux de réfugiés vers le nord du pays réveillent des cauchemars chez les Libanais. Marielle est guide touristique. Elle vit à Bilbos, une ville côtière à 40 km de Beyrouth, la capitale, et elle craint le pire.
C'est notre plus grande peur, c'est que ça dégénère, que ça continue, que ça ne s'arrête pas, parce qu'on est face à un ennemi qui dépasse, qui est au-dessus de toutes les lois internationales, je pense, il se permet tout et personne ne l'arrête. C'est ça le problème. Et le vécu quotidien, il est dur, parce que là, les écoles sont fermées pour les élèves, mais elles sont ouvertes pour accueillir les réfugiés. On ne sait pas où est-ce qu'on va, s'il y a coupure de moyens de communication, il n'y a plus Internet. L'État n'est pas dans la mesure de fournir les moyens, quoi. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine crise encore. Voilà, on vit les conséquences de cette crise, en plus une guerre. Donc, on a peur que si ça prolonge, de manquer d'essence, de manquer de médicaments, de manquer de denrées alimentaires, de tout ça. Ce qui vraiment qui me fait mal au cœur, qui fait fendre mon cœur, c'est qu'on a toujours dit ça, c'est la dernière guerre. À chaque guerre, on dit que c'est la dernière. Et on ne vit que des cumuls de traumatismes, des cumuls de souvenirs de guerre. Et ça surgit à chaque fois qu'il y a une nouvelle guerre. Et le plus dur, c'est qu'on pensait que nos enfants ne vivront plus ce qu'on a vécu.
Le témoignage de Marielle, habitante de Bilbos. De son côté, le Hezbollah a tiré un missile balistique vers Tel Aviv tôt ce matin. Une première selon l'armée israélienne qui l'a intercepté. Face à cette escalade, la communauté internationale redoute désormais un embrasement du Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce mercredi à la demande de la France. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation au Liban sur notre live sur RFI.fr. Une erreur absolument fatale, c'est ce que répond le Kremlin à l'appel de Volodymyr Zelensky hier à l'ONU. Le président ukrainien a exhorté le Conseil de sécurité à forcer la Russie à faire la paix avec son pays. L'armée russe continue son avancée dans l'est de l'Ukraine face à des soldats en infériorité numérique et manquant d'armes. Moscou annonce avoir repris 2 nouvelles localités dans la région de Donetsk, celles de Gostré et Grigorivka. C'est une première depuis les années 1980 en Chine. Le ministère de la Défense annonce ce mercredi avoir testé un missile balistique intercontinental dans l'océan Pacifique. Une rare communication de l'armée populaire de libération pour un test hautement inhabituel dans un contexte de rivalité sino-américaine autour de Taïwan et de la souveraineté en mer de Chine méridionale. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour Mayenne.
Ce test a provoqué des réactions dans la région.
Oui, la Nouvelle-Zélande a qualifié ce lancement de préoccupant et indésirable, même son de cloche du côté du Japon, pour qui le renforcement militaire de Pékin est une préoccupation sérieuse. Contrairement à ce qu'avance l'agence chinoise Xinhua, Tokyo assure ne pas avoir été alerté de l'envoi du missile, même si selon un officiel des gardes-côtes nippons cité par Reuters, son organisation aurait été prévenue de retombées potentielles de débris en mer de Chine méridionale et dans l'océan Pacifique. Aucune précision n'a été apportée par Pékin, ni si le tir est parti d'un sous-marin terrain ou depuis la terre ferme, ni sur le lieu d'atterrissage du missile. Dans son court communiqué, le ministère de la Défense chinois minimise l'importance de l'événement en évoquant un lancement routinier dans le cadre de son programme annuel d'entraînement. Pourtant, la Chine communique très rarement sur ses essais et effectue généralement des tests dans l'espace aérien chinois. Les États-Unis estiment que l'armée populaire de libération cherche à doubler son nombre d'ogives nucléaires d'ici 2030 et à améliorer ses capacités balistiques, d'où l'importance pour Pékin de ses lancements en conditions réelles.
Merci Nicolas Rocca. Et l'annonce intervient après celle de la Chine vendredi. Taïwan va alléger les restrictions sur les importations de nourriture japonaise. C'est ce qu'annonce Tokyo. Cela concerne notamment les produits de la mer provenant des zones proches de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima en 2011. Une condition cependant, il faudra un rapport d'inspection des matières radioactives. Les importations avaient été suspendues en 2023 après la décision du Japon de rejeter les eaux traitées de la centrale dans l'océan Pacifique. En Amérique du Nord, le trafic maritime menacé par de nombreuses grèves. Aux États-Unis, les dockers des ports de la côte Est et du Golfe du Mexique risquent d'arrêter leur opération le 1er octobre. Les négociations achoppent sur la question des salaires et de l'automatisation du travail. Et à Vancouver, au Canada, les quais qui servent aux produits céréaliers sont eux bloqués depuis mardi. Bonjour Gali Bonin.
Bonjour.
Cet arrêt de travail met en péril l'exportation des grains canadiens.
Oui, plus de la moitié de la production céréalière du pays transite par ce port, principalement du blé et du colza, dont le Canada est le premier exportateur mondial. L'Association nationale des producteurs de grains estime que l'arrêt des opérations coûte 26 millions de dollars par jour. Elle demande l'intervention immédiate du gouvernement. Un désaccord sur les salaires est au cœur du conflit social. Côté Atlantique, les travailleurs du port de Montréal se prononcent aujourd'hui sur un mandat de grève qui est souhaité par le syndicat, mais ce sont surtout les ports américains qui inquiètent. De l'Atlantique Nord jusqu'au Golfe du Mexique, des dizaines de milliers de dockers menacent de débrayer. Leur convention collective arrive à échéance lundi. L'arrêt de travail affecterait la moitié des importations américaines. Le port de New York, le plus important parmi ceux concernés, a même demandé à ses clients de venir rapidement récupérer leurs marchandises. Impossible de le faire si la grève est déclenchée. Ce serait la première en près de 50 ans.
Merci Gali Bonin. Des sécheresses, des coupures d'électricité et maintenant des incendies. L'Équateur est frappé depuis des semaines par une série de catastrophes naturelles. La pire sécheresse connue dans le pays depuis 60 ans, selon le gouvernement, a provoqué des incendies qui ont déjà détruit 37 000 hectares de terrain ces dernières semaines. 16 000 près du Pérou. Hier, des incendies se sont déclenchés à Quito, comme l'a constaté notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
La capitale équatorienne se réveille sous la cendre, sentant la fumée et attend avec crainte le retour des vents qui ont attisé les incendies hier après-midi et dans la soirée. Plus de 100 familles ont été évacuées, 2 pompiers blessés, selon le maire de la capitale, Pavel Munoz, qui a parlé d'actes criminels et terroristes. Le tunnel menant à la vallée voisine et aux villes de Cumbaya et Tumbaco a été fermé, ainsi que le périphérique, provoquant des embouteillages monstrueux. La zone la plus menacée est la petite zone bohème de Guapulo, où des eucalyptus de 15 mètres de haut se sont enflammés. Dans le quartier de la González Suárez, tout proche, des voisins se sont mobilisés avec les moyens du bord pour aider les pompiers, les policiers et les militaires. À coups de seau d'eau, ils ont essayé de protéger les immeubles de la zone qui est encore couverte de fumée. Mardi après-midi, des hélicoptères bombardiers d'eau sont bien intervenus, mais sans beaucoup d'effet au vu de la virulence des incendies. Les autorités demandent à la population de circuler avec des masques et toutes les classes ont été suspendues ce mercredi. Mardi soir, les coupures d'électricité ont été suspendues à Quito pour ne pas compliquer encore plus la lutte contre le feu. Éric Sanson, Quito, RFI.
Il est bientôt 15h08 à Paris. RFI Midi se poursuit avec Anne Cantner.
Merci. Dernière partie d'RFI Midi. Nous sommes sur le continent américain et nous allons parler notamment d'Haïti.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Haïti au cœur de très nombreuses réunions à New York cette semaine à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et Joe Biden a parlé de ce pays hier en lançant un appel à la paix. Écoutez.
Le Conseil de sécurité comme l'ONU doivent en revenir à leur mission d'œuvrer pour la paix. Ils doivent obtenir des accords pour mettre fin aux guerres et aux souffrances. Ils doivent arrêter la prolifération des armes les plus dangereuses. Ils doivent stabiliser les régions troublées de l'Afrique de l'Est, à Haïti, où une mission est menée par le Kenya aux côtés des Haïtiens pour changer le cours des choses.
Voilà, Haïti évoqué par le président américain dans son discours. Le président du Conseil de transition haïtien, lui, s'exprimera demain à la tribune. Et il y a quelques jours, le Premier ministre, toujours à New York, avait mis en avant des améliorations, notamment sur le plan sécuritaire à Port-au-Prince. Et nous recevons pour en parler Lou Pinjot, professeur auxiliaire à l'Université d'Ottawa. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais merci d'être avec nous. On parle de la sécurité en Haïti aussi parce que cela fait 3 mois aujourd'hui que le premier contingent kényan est arrivé à Port-au-Prince. Cette mission multinationale d'appui à la sécurité, elle est encore loin d'être au complet, mais on va faire quand même un premier bilan avec vous. Alors, je le disais, le chef du gouvernement de transition a parlé il y a quelques jours de progrès. Dans quel quartier de la capitale, quelles sont les opérations qui ont été menées jusqu'à présent à Port-au-Prince ?
Alors, le bilan n'est pas facile à faire parce que y a un peu un manque de transparence opérationnelle autour de la force multinationale. Par exemple, on ne connaît pas ses règles d'engagement, comment elle est censée gérer le problème des gangs qui est son objet principal. Un peu comme vous, moi je lis les press releases, les déclarations de la force. Qui semble avoir principalement, comme vous le disiez, opéré dans la région de Port-au-Prince, autour de la base qui a été construite là-bas pour elle, avec des déclarations qu'il y a des quartiers, des endroits qui ont été, dont le contrôle a été récupéré, qui étaient contrôlés par des gangs. Parfois, en revanche, ça semble pas durer, forcément, parce que la force est petite et n'a pas la capacité d'occuper un grand terrain. Et comme vous le disiez, on n'est qu'à 400 policiers sur un total de 2500 qui était prévu. Et manque de financement et manque d'équipement. Donc un bilan quand même très mitigé.
400 policiers kényans qui sont en Haïti, ainsi qu'une vingtaine de Jamaïcains. Effectivement, c'est très loin des objectifs, des effectifs qui avaient été annoncés. Pourquoi ?
Je pense que là, on voit un peu l'échec de un modèle décentralisé d'intervention. Donc, les opérations de paix de l'ONU ont aussi leurs problèmes pour recruter des troupes. Mais disons qu'avec une opération de paix de l'ONU, c'est que les choses sont quand même beaucoup plus formalisées au point de vue du budget, au point de vue de recruter des policiers, des militaires. Et donc là, comme ça n'a pas été, ça a été autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais sans que le Conseil ait voulu prendre la direction de la mission, on a ce modèle un peu décentralisé où les États-Unis essayent de convaincre plusieurs pays d'apporter à la fois du financement des policiers et des militaires. Et finalement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas vraiment très bien. En fait.
Il y a eu plusieurs appels, effectivement, de la part des États-Unis pour que cette mission devienne peut-être une mission de maintien de la paix, donc sous la houlette de l'ONU. Antonio Guterres l'exclut complètement. Il a même rappelé il y a quelques jours au micro de notre correspondante à New York que de toute façon, il n'y avait pas de paix à maintenir pour l'instant à Port-au-Prince. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce cas des Nations Unies ?
Effectivement, on a eu des échos un peu ces derniers mois que peut-être il y avait une volonté de transformer cette mission en mission de maintien de la paix, ce qui paraît, comme vous le dites, assez improbable. Donc là, cet été, les États du Conseil de sécurité se sont entendus pour renouveler le mandat de la BINU, qui est la mission politique qui existe à Haïti actuellement, en incluant du nouveau langage qui parle de coordination avec la force multinationale. Mais bon, ça reste encore quand même assez vague. On sait que, évidemment, il y a des jeux géopolitiques qui ont lieu au sein du Conseil de sécurité, notamment avec l'opposition de la Russie et de la Chine, qui rendent peut-être une escalade d'une mission difficile. Mais bon, c'est en partie un jeu politique, mais c'est en partie la Russie et la Chine ont aussi, je pense, soulevé des questions de fond sur non seulement la force multinationale, mais le rôle de l'ONU et d'une éventuelle mission, sur ce qui peut être perçu comme de l'ingérence étrangère dans les affaires d'Haïti, notamment qu'avec l'accord qui avait établi le Conseil présidentiel de transition, dans cet accord, ça disait que le Conseil devait accepter la présence de la force multinationale. le manque de transparence sur la manière dont la mission opère, qui est aussi quelque chose que j'ai soulevé, les chances de succès limitées sans vraie solution politique. Donc, il y a quand même des problèmes de fond qui sont là.
Mais alors, dans ce cas, est-ce que ça vous semble totalement exclu qu'un jour cette mission puisse évoluer ? Est-ce que les appels américains ont un autre sens, peut-être d'obtenir des financements ? Parce que ça aussi, le secrétaire d'État américain l'a vraiment martelé.
Oui, oui, oui. Bah, je pense qu'il y a, une volonté d'essayer de trouver des volontaires pour contribuer financièrement. Après, on voit déjà qu'il commence à y avoir des problèmes là dans la manière dont la force multinationale est conceptualisée. Notamment, récemment, là, cet été, on a vu que le Bénin, qui était censé envoyer beaucoup de soldats, plus d'un millier de soldats, a dit qu'en fait, ça devait être une mission militaire et pas policière, qu'ils ne voulaient pas envoyer leurs soldats sous commandement policier.
Qu'est-ce que ça change que ce soit une mission policière et pas militaire ?
Y a une question de fond là, qui est-ce que les gangs, c'est un problème militaire ou policier ? Ou les deux, ou aucun des deux, ou plus que ça. Et de fait, dans la mission de l'ONU précédente, donc la MINUSTAH, qui était en Haïti de 2004 à 2017, c'était l'armée brésilienne qui avait mené les opérations contre les gangs, en conjonction avec des policiers de l'ONU et aussi avec la police haïtienne. Et ce qu'on a vu dans cette approche, qui était vraiment une approche musclée, robuste, centrée sur le fait de neutraliser ou déloger les gangs, c'est en gros une approche qui voit les gangs comme un problème de guérilla urbaine et qui ne s'est pas du tout intéressée aux réseaux plus larges autour des gangs, notamment qui les finance et qui les arme. Et il n'y a pas eu de travail d'enquête sur ces réseaux qui est a priori la base d'un travail policier. Et donc avec la MINUSTAH, on n'a pas eu de processus pour étendre la responsabilité et l'imputabilité au-delà de la rue, au-delà des gangs. Et là, on a un peu l'impression qu'on est en train de refaire la même chose. Parce que, alors, on parle un peu des connexions entre les gangs et le monde de la politique et du business à Haïti, notamment avec des sanctions qui ont été mises en place contre des individus par des pays comme le Canada. Mais ce lien reste pas vraiment fait sur la manière dont on va, dont la mission est censée régler le problème des gangs.
Et ça aussi, ça alimente les doutes que vous évoquiez sur le succès de cette mission. Vous nous l'avez rappelé, donc on est très loin des effectifs qui étaient prévus. A priori, les Kenyans devraient être au complet d'ici à la fin de l'année, mais il manquera encore 1500 policiers supplémentaires qui, eux, devaient venir d'autres pays, notamment du Bénin, comme vous le disiez. Est-ce que, indépendamment de la date de déploiement, est-ce que cet effectif vous paraît suffisant ou est-ce que, de toute façon, cette force est sous-dimensionnée face à la menace que représentent les gangs ?
Mais c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas voir cette mission qui est principalement un but sécuritaire comme étant une solution en elle-même. C'est sûr que si on l'imagine comme ça, c'est voué à l'échec parce qu'on ne peut pas envoyer quelques milliers de policiers dans un endroit qu'ils ne connaissent pas et espérer qu'ils vont régler ce problème. Donc, il y a un moment, il faut que ça soit lié à une solution politique. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que la solution politique quand même patine pas mal en ce moment. On retombe un peu dans les mêmes schémas d'intervention internationale en Haïti qui existent depuis les années 90 et avant. Et donc, cette idée que la force multinationale pourrait réussir comme ça à régler le problème des gangs, ça paraît complètement surréaliste, en fait.
Je vous remercie beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Lou Pinjot, professeur auxiliaire à l'Université d'Ottawa. Merci. L'avenir de cette mission, il figure aussi à l'agenda des Nations Unies cette semaine, avec l'arrivée du président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, à New York. La délégation haïtienne est enfin au complet, ça y est. Et le journal Le Nouvelliste leur lance un appel à Rimley Paul.
Oui, espérons que les différents acteurs mettre leurs divergences de côté et travaillent pour le bien du peuple haïtien. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans l'éditorial de France Duval, le rédacteur en chef du journal qui sera avec nous demain jeudi. Espère que la délégation profitera de cette semaine diplomatique intense pour organiser des réunions bilatérales, par exemple avec des représentants de la République dominicaine pour apaiser les tensions entre les deux pays. Selon le Nouvelliste, il convient de rentabiliser la participation de la délégation haïtienne à l'ONU cette année. La première des responsabilités est de bien se comporter, et oui, écrit le journal, avant de conclure en s'adressant directement aux autorités du pays. Mesdames, messieurs, soyez à la hauteur des catastrophes qui menacent l'avenir d'Haïti.
RFI. The World's Voices. Voilà donc l'appel lancé par la presse haïtienne avant le discours du président du Conseil présidentiel de transition. Ce sera demain. Les discours des chefs d'État devant l'ONU, c'est vraiment le grand sujet aujourd'hui dans les journaux du continent, Arim.
Oui, exactement. Le New York Times revient sur le discours d'adieu du président américain Joe Biden dans un discours d'un peu plus de 20 minutes devant l'Assemblée générale de l'ONU. Joe Biden a mêlé des considérations personnelles à des impératifs politiques et une défense passionnée de la démocratie. Il est revenu sur sa carrière politique depuis son élection au Sénat en 1972 jusqu'à sa décision d'abandonner sa candidature à la réélection, une décision qu'il a présentée comme une leçon pour les autres chefs d'État, selon le New York Times. Celui qui est arrivé il y a 4 ans en promettant que l'Amérique est de retour doit aujourd'hui faire face aux limites de sa promesse, poursuit le journal. Ce qui fait que le président américain a adopté hier devant l'ONU une posture plus défensive, écrit le Washington Post, en mettant en avant son travail pour préserver la démocratie et apporter une solution aux guerres désastreuses en Ukraine et à Gaza.
Autre discours avec une tonalité très très différente, celui du président argentin Javier Milei.
L'agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de.
Javier Milei a tiré à boulet rouge sur l'ONU. Arim, il a dénoncé un système qui promeut, selon lui, des politiques socialistes.
Oui, selon Clarín, il a porté un coup de poignard au cœur même du multilatéralisme. Le journal argentin relève aussi que Javier Milei a qualifié l'ONU d'incapable à apporter des solutions aux conflits mondiaux et qu'il a décidé d'abandonner la position de neutralité historique de son pays et qu'il sera désormais à l'avant-garde de la lutte pour la défense de la liberté. Un discours qui a suscité beaucoup de critiques d'anciens diplomates et fonctionnaires argentins qui craignent que l'attitude du président ne fera qu'isoler son pays sur la scène internationale, écrit La Nation.
Voilà, on parlait tout à l'heure d'Haïti aux Nations Unies. Le pays est aussi à la une aux États-Unis en pleine campagne électorale, puisqu'une ONG haïtienne dans le pays réagit au discours anti-migrant très violent qui est véhiculé par le candidat républicain Donald Trump. Cette ONG, elle demande carrément l'arrestation de Donald Trump et celle de son colissier, J.D. Vance, pour avoir véhiculé de fausses informations sur les Haïtiens de Springfield dans l'Ohio.
Oui, des allégations, vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, selon lesquelles les Haïtiens installés dans cette ville mangeraient des animaux domestiques. Alors la demande d'arrestation contre Donald Trump et J.D. Vance a été déposée devant un tribunal local hier, alors que Donald Trump est censé se rendre à Springfield dans les prochains jours, c'est-à-dire dans le Miami Herald.
Et puis on termine votre revue de presse avec le Mexique, Arim. Demain, le pays commémorera solennellement le 10e anniversaire de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa.
Oui, l'enquête sur ce massacre n'avance pas. On ne sait toujours pas qui a tué ces étudiants. Et tout cela est en partie la faute au président sortant Andrés López Manuel Obrador. C'est ce qu'on peut lire aujourd'hui dans la presse. Anne, entre le fait de faire confiance à l'enquête criminelle ou à l'armée, AMLO a choisi l'armée, écrit le site d'information Infobae. Le président a favorisé l'enquête jusqu'au moment où le rôle de l'armée a été pointé du doigt. Selon l'ONG de défense des droits humains Centroprod, la gestion de cette affaire par AMLO était un grand échec. Les militaires ont gagné la partie, explique un avocat de cette ONG dans le journal Proceso, en soulignant que le crime reste impuni et que l'armée n'a jamais été obligée de rendre des comptes ou de divulguer des informations nécessaires pour élucider ce massacre commis il y a 10 ans.
Achim Lipold, votre revue de presse est à retrouver sur notre site internet rfi.fr à la page du Journal d'Haïti et des Amériques.
Le journal de l'Outre-mer.
avec nos confrères de La Première et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique. Une nouvelle réunion de négociation consacrée à la problématique de la vie chère se tiendra demain, jeudi, au siège de la collectivité territoriale.
Ce sera déjà le quatrième round de discussion et en cas d'accord, le préfet l'a promis, les contrôles sur le terrain vont être renforcés. Écoutez Jean-Christophe Bouvier au micro de Manuel Larade.
Ça a fait l'objet d'une précision très importante de la part de la responsable de ce service qui travaille au sein de la DETS lors de la dernière table ronde. Elle a rappelé la quantité de contrôles réalisés en 2024. Plus de 500 contrôles destinés à vérifier la légalité, la bonne formation des prix, le fait que les marges ne sont pas trop importantes, le fait qu'il n'y a pas d'accord entre les grandes distributions. Ce travail est fait au quotidien. Maintenant, si nous devons y rajouter une étape, qui est celle de contrôler dans la mesure où des décisions sont prise pour baisser le coût de revient des produits, donc de vérifier que cette baisse est répercutée jusqu'au bout de la chaîne, je peux vous assurer que nous mettrons les moyens pour que cette baisse soit répercutée et que ceux qui enfreindraient cette règle seraient lourdement sanctionnés. Mais tout le monde en a conscience. Tout le monde autour de la table en a conscience et tout le monde a conscience de l'urgence de parvenir à un résultat. Et nous avons les moyens d'investigation, de sanctions, d'amendes qui sont conséquentes et
direction la Guadeloupe.
Benoît Ferrand, on a des petits problèmes de liaison, visiblement. Votre journal des Outre-mer a retrouvé donc sur votre site, le site de La Première. Je vous propose d'écouter un petit peu de musique. Le groupe colombien Los Petites Felas et le morceau El Sol. Ce groupe sera en concert ce soir à Lima, au Pérou.
Menor. Despierto del calor y agradezco insultando en el primer párrafo. Camino y dejo ceniza a mi alrededor, si no siento por dentro que si estoy quieto me apago. Me cobro impuestos el estado mental y cargo la paranoia del lugar donde se crece. Aprendiendo a hablar de la sed que no se conoce. Más que al silencio le tengo miedo, pero enloquecer de una vez igual ni lo va a ser. Me piden que no camino, los puedo complacer. Sería pedirle al tiempo inexorable que no pase. Aunque sé que es lo que dice y lo sé, no hay que ceder, lo sé. Por la ventana el astro rey entrándose, casi preguntando qué hoy voy a hacer. Ya tras una tregua a ver si quiere suceder. Sin ganas de morir, pero con planes de ver cómo renace el sol. Se asoma por el este y apunta hacia el lugar en donde esté. Se asoma por el este el sol. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Se asoma por el este y apunta hacia el lugar en donde esté. Se asoma por el este el sol. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Llover seguramente tarde y el lodo también se hizo pa' que escarbe al borde de dejarlo, le pido que me aguarde partido en el azar de buscar algo valioso que dejarte y pa' no quedarme sin saberte, dedicado a demolerme, decidido a no caerte. Más ciertas horas dando vueltas a lo mismo detrás de una tregua a ver si quiere suceder. Y debajo de este cielo todo pasa, a veces no me pesa, a veces me rebasa. Demasiadas horas dando vueltas a lo mismo, buscando que se escribe estando lejos de la casa. Y por la ventana el astro rey entrándose, casi preguntando qué hay para hacer. Yo trazo una tregua a ver si quiere suceder. Sin ganas de morir, pero con
Los Petites Felas, groupe colombien qui sera en concert ce soir à Lima, au Pérou. Pour terminer, RFI Midi. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Mais vous restez avec nous, bien sûr, puisque dans une minute maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou et son émission de vive voix, immersion dans une classe d'élèves allophones. Je vous laisse découvrir ça avec lui.
RFI, la sélection du mois. Tu mi vecina de arriba. Manu Chao. Por ti, yo me decapitaría.
Viva tu. On m'appelle chouchou des nanas.
Culture.
C'est moi le chouchou des nanas. Sans stress, bébé, sans stress. Si tu veux me voir pour la vie sans cesse. C'est moi le chouchou des nanas.
RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI,
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, avec Gabriel Maréchaux de The Conversation et mes collègues de RFI, nous vous parlerons du manque de données météo en Afrique de l'Ouest, des conséquences du changement climatique sur l'agriculture au Kenya, et nous vous apprendrons comment cultiver des légumes chez vous sans terre.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.